place publique.
Le départ de Moutier dans le Jura oblige le Jura bernois à se réinventer, se pose la question de la réimplantation des services et institutions du canton de Berne, jusque-là basé dans la cité prévotoise, mais aussi la question de la place de Bienne dans la Nouvelle Donne, sans oublier le poids politique du Jura bernois et des francophones dans le canton de Berne. Quel avenir donc pour le Jura bernois et les francophones du canton de Berne sans Moutier? C'est notre table ronde dans un petit instant. L'armée suisse fait un geste pour motiver les recrues à s'engager sous le drapeau. Il sera par exemple possible de surfer 15 minutes par jour. Alors au-delà de l'anecdote, le défi est de taille. Surfer sur Internet 15 minutes par jour, certes, eh bien ça peut peut-être servir à stopper l'hémorragie des effectifs, les jeunes préférant se tourner vers le service civil, souvent par commodité. Plusieurs communes de l'arc jurassien comptent parmi les plus beaux villages de Suisse. Valangin vient de rejoindre La Neuville, Le Landron, Saint-Ursanne ou encore Erlach dans ce classement qui compte 22 autres sites d'exception dans le pays. Mais ce label sert-il vraiment à quelque chose? On en parle en dernière partie d'émission.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. Le Jura bernois doit faire face à une période d'incertitude après le vote de Moutier dimanche dernier. Le départ de la cité prévotoise en terre jurassienne pose une série de questions au-delà de l'avenir de l'hôpital du Jura bernois, largement débattu ces dernières semaines. Dans quelle commune, au pluriel, réimplanter les différents services cantonaux et institutions bernoises basées à Moutier? Quel rôle doit jouer Bienne dans cette nouvelle configuration? Ce vote du 18 juin remet-il en question le poids politique du Jura bernois dans le canton de Berne? La minorité francophone doit-elle se serrer les coudes pour continuer d'exister? Trois invités pour en débattre. Anne-Caroline Graber, bonsoir.
Bonsoir.
Députée UDC au Grand Conseil bernois, venant de La Neuville. Avec nous également Patrick Tanner, maire de Saint-Imier, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Devec.
Et avec nous également Éric Fer, maire de Bienne, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Anne-Caroline Graber, on commence avec vous. Sitôt le résultat de Moutier est connu, vous avez pressé le canton de Berne via une interpellation d'agir le plus rapidement possible. En quoi, selon vous, il y a urgence d'agir?
Écoutez, tout d'abord, parce que la décision de Moutier de quitter le canton de Berne fait entrer tout le Jura bernois dans une phase d'instabilité et d'affaiblissement. Et pour moi, il est très important de très rapidement présenter un concept de relocalisation des unités administratives et des institutions publiques bernoises qui sont situées à Moutier. La deuxième raison, c'est que le départ de Moutier dans le canton du Jura deviendra effectif en 2021, dans 3 ans et demi. Et puis, très concrètement, pour relocaliser les unités administratives, les institutions publiques, il faudra réaménager des bâtiments, il faudra peut-être même construire des bâtiments et tout cela prendra du temps. Donc 3 ans et demi, c'est un laps de temps relativement court pour une démarche de ce type-là.
Vous parlez de relocalisation et vous précisez que ce sera dans le Jura bernois et à Bienne seulement en cas d'impérieuse nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la cité zélandaise constitue une menace?
Écoutez, pour le Jura bernois, c'est très important de conserver son statut particulier, cette protection particulière. Et puis, on pourrait envisager que Bienne soit candidate pour obtenir des institutions publiques. Je salue la décision des autorités communales. Je sais que M. Fer est là ce soir avec nous. Je salue la décision de ne pas revendiquer des unités administratives. Pour moi, l'essentiel de ces institutions publiques doit rester dans le Jura bernois. Mais s'il est très difficile de relocaliser, par exemple, l'école de maturité spécialisée installée à Moutier, mais rattachée administrativement au gymnase français de Bienne, je pense qu'il ne faut pas totalement fermer la porte et il faudrait envisager éventuellement un rattachement à Bienne, mais seulement en cas d'impérieuse nécessité.
Éric Fer, on l'a entendu, vous ne revendiquez pas les services administratifs, mais on peut le comprendre. Ça veut dire qu'à l'inverse, vous êtes plutôt intéressé à accueillir la formation dans la cité zélandaise.
Alors écoutez, je pense qu'il y a en premier lieu, il faut dire que les services administratifs exclusivement destinés à la population du Jura bernois doivent rester dans le Jura bernois. Ça me semble logique, c'est une question de territorialité. Après, il faut faire attention que la partie francophone du canton ne se déchire pas elle-même, car c'est deux choses, à mon avis, distinctes. D'une part, le statut particulier du Jura bernois, pour lequel la ville de Vienne a un grand respect et qui, à mon avis, doit continuer d'exister comme jusqu'à aujourd'hui. Et après, par exemple, dans le domaine de la formation, je suis totalement encore une gravère qui dit il faut voir comment on peut réorganiser ça d'une manière à ce que les besoins de la population francophone peuvent être satisfaits. Et il faut toujours dire, la population francophone du canton de Berne n'est pas totalement identique, même s'il y a beaucoup d'interfaces avec le Jura bernois.
Patrick Tanner, Saint-Imier récupère le titre de la plus grande commune du Jura bernois après le départ de Moutier. Est-ce que pour autant, vous allez revendiquer l'essentiel des services en déshérence lors de la prochaine séance organisée par le gouvernement bernois ?
Écoutez, à ce stade, je pense qu'il n'est pas encore question de revendiquer telle ou telle administration. Je pense que le gouvernement bernois l'a annoncé. Il souhaite intégrer les communes concernées sous l'égide du Conseil du Jura bernois. Je pense que la démarche est respectable. Et puis, je pense également que dans le Jura bernois, et je rejoins les propos de M. Fer, il est important qu'une discussion puisse avoir lieu avec les communes, en tout cas les principales communes, pour que les choses se passent de manière sereine. Je suis à ce stade relativement confiant. Je pense que les communications du gouvernement bernois sont aussi relativement claires. Pour eux, la francophonie, la partie francophone du canton revêt une importance considérable pour le canton. Et je pense que nous devons travailler ensemble autour de cette table.
On va quand même se poser la question suivante. Il y a plusieurs communes de plusieurs milliers d'habitants dans le Jura bernois qui peuvent prétendre à accueillir des services. Est-ce que vous-même, là comme ça, au niveau du principe, vous seriez plutôt pour une centralisation dans une de ces communes ou pour un émiettement, chacun pourra prendre une part du gâteau ?
Alors personnellement, et là je m'exprime en mon nom et non au nom du conseil municipal, je pense que l'important est de mener une analyse conjointe avec les autorités cantonales, parce que je pense que chaque administration a des particularités différentes. Et je pense qu'il s'agira de voir si le bénéfice d'une centralisation est important ou au contraire, si d'autres critères, d'autres éléments, la proximité avec la population, les voies de communication, les intérêts également des différents offices. Et je pense que ces critères doivent être pris en compte et on ne doit pas foncer dans une voie unique simplement en disant, voilà, il faut tel office à tel endroit ou centraliser l'entier de l'administration. Je pense qu'il faut être pragmatique, il faut analyser tout ça dans le calme et autour d'une discussion que je souhaite et que je veux constructive.
Alors une discussion constructive n'empêche Anne-Caroline Graber qu'avec quelques 3700 habitants, la Neuville compte parmi les quatre communes les plus importantes du Jura bernois, derrière Saint-Imier, Tramelan et Valbirse. Ça veut dire qu'il va falloir jouer un peu des coudes pour obtenir quelque chose.
Écoutez, moi je souhaite justement que les communes ne doivent pas jouer des coudes. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté pour que l'initiative de l'élaboration d'un concept de relocalisation des unités administratives bernoises décentralisées viennent du conseil exécutif. Le conseil exécutif chapeaute l'administration, y compris l'administration décentralisée. Ensuite, il ne s'agit absolument pas d'imposer ce concept de relocalisation aux communes, mais justement de négocier avec elles et de tenir compte d'éléments très concrets, les bâtiments à disposition, par exemple. Et puis, j'ai insisté aussi sur trois principes qui me semblent très importants. Le principe d'équité, c'est-à-dire un peu à chaque commune importante. Le principe de rationalité, si par hypothèse on a 20 unités administratives décentralisées, on ne va pas les localiser dans 20 endroits différents, ça provoquerait des surcoûts, ça empêcherait des synergies précieuses. Et puis finalement, le principe d'opportunité politique.
On va parler maintenant du poids du Jura bernois, le poids politique du Jura bernois dans le canton de Berne. Là, la question est de savoir si Bienne, encore une fois, doit jouer un rôle. Vous y avez répondu tout à l'heure, Eric Fer, mais quand même, je vous repose la question. Est-ce que le statut particulier du Jura bernois sans Moutier a encore du sens? Est-ce qu'il ne faudrait pas, comme le demande par exemple Mohamed Hamdaoui, y inclure les francophones de Bienne?
Je pense que le statut particulier du Jura bernois lié à la territorialité et la langue en même temps, ce qui est la particularité du Jura bernois, il ne faut pas être mis en question parce qu'il y a eu de promesses très importantes de la part du canton de Berne avant la votation de 2013 et on n'ose pas décevoir maintenant les gens qui se sont à grande majorité déclarés en faveur du canton de Berne. On ne peut pas changer la donne seulement parce que Moutier part, seulement entre guillemets, une ville qui a toujours été pour une bonne partie orientée vers le nord. D'autre part, il y a des besoins à satisfaire des francophones de Bienne, des revendications tout à fait justifiées, mais à mon avis, c'est pas sur à charge du Jura bernois qu'il faut faire ça, mais il faut trouver ensemble, encore une fois je répète, des solutions qui permettent d'une part à conserver le statut particulier de l'unité territoriale que le Jura bernois représente, de tenir compte des besoins spécifiques des francophones de Bienne qui sont absolument justifiés, mais en même temps au niveau de Bienne, on doit aussi veiller au fait qu'à ce qu'on n'ait pas deux catégories de citoyens, donc un défi assez important qui nous attend, qu'on peut seulement résoudre en dialogue entre Bienne, le Jura bernois et le canton.
Gabriel Devec.
Et on parle de la nouvelle donne à la suite du vote de Moutier dimanche dernier. La nouvelle donne au niveau du Jura bernois. Alors, il y a la relocalisation des services administratifs cantonaux bernois ailleurs dans l'arrondissement. Il y a aussi le poids de Bienne dans cette région. Une région qui, apparemment, Anne-Caroline Graber, ne doit pas complètement se réinventer. Si on écoute Eric Fer, si on vous écoute aussi, vous n'avez pas l'air très partante pour, comme le dit Mohamed Hamdaoui, chez nos confrères de Forum, changer de logiciel et imaginer une région au destin commun, le destin des francophones dans le canton de Berne, tout simplement. Pour vous, c'est encore deux mondes.
Je voudrais particulièrement saluer les propos d'Éric Fer qui sont empreints d'un grand respect pour le Jura bernois et qui s'inscrivent dans une continuité au niveau du respect mutuel entre le Jura bernois et Bienne qui sont liés par des liens très très profonds. La proposition de Monsieur Hamdaoui mettrait à néant, si vous voulez, réduire à néant la dimension territoriale du statut particulier, et je suis très contente ce soir d'entendre Monsieur Fer qui reconnaît la dimension territoriale du statut particulier. Sans cette dimension territoriale, nous perdons notre statut particulier et nous disparaissons de la carte en quelque sorte. Je voudrais encore dire très très rapidement quelque chose. J'ai vraiment confiance dans l'avenir. Avec le départ de Moutier qui nous attriste, c'est aussi la fin de la question jurassienne et le Jura bernois pourra enfin avancer sans être paralysé par cette question.
Patrick Tanner, Tramelan et Bienne ont déjà fait part au début de l'année de leur intention de collaborer davantage sur plusieurs niveaux, au niveau économique, au niveau de la formation, encore dans le domaine culturel. Est-ce que plus que jamais quand même, Bienne doit faire partie de l'équation si le Jura bernois et les francophones veulent s'assurer un avenir dans le canton de Berne ?
Je pense que effectivement, Bienne joue un rôle important. Monsieur Fer l'a dit, on a l'arrondissement administratif de Bilbienne qui est un arrondissement bilingue. Cet arrondissement est bien évidemment important dans le canton de Berne qui est également un canton bilingue. L'arrondissement du Jura bernois est pour sa part francophone et pour le cas particulier de Saint-Imier, je pense qu'on est tout à fait ouvert à la discussion sur des collaborations avec Bienne. Je pense que c'est également un nœud ferroviaire par exemple important par rapport à notre vallon, mais il est vrai aussi que la particularité du Haut-Erguel est la proximité avec les montagnes neuchâteloises, avec la métropole de la Chaux-de-Fonds, et nous avons cette particularité à gérer en termes de proximité, de flux fonctionnel de la population.
Merci à tous les trois d'être venus dans Place Publique pour dessiner l'avenir, pour esquisser l'avenir du Jura bernois. Nous donner vos positions respectives, Anne-Caroline Graber, Patrick Tanner et Eric Fer. Bonne suite de soirée.
Merci, bonne
et bon
soirée.
Week-end, à bientôt.
Au revoir, merci bonne soirée, beaucoup. Merci.
Au revoir.
Place Publique.
Comment motiver les jeunes à servir sous le drapeau? C'est la préoccupation du moment pour le chef de l'armée suisse, Philippe Rebord. Le Valaisan s'inquiète, les jeunes boudent l'armée, si bien qu'il va manquer des effectifs, alors que les menaces existent. Philippe Rebord a averti dans la presse cette semaine, il va manquer bientôt 10 000 hommes. La faute à la démotivation. La pénibilité de l'armée est trop forte en comparaison avec le service civil, plus commode. Le cursus militaire oblige parfois à retarder une formation supérieure. Alors pour inverser la tendance, l'armée semble prête à faire des concessions. Par exemple, en accordant aux recrues un quart d'heure de surf sur Internet quotidiennement, se pose la question de savoir jusqu'où l'armée peut adoucir ses pratiques sans compromettre ses missions. Alors je vous propose d'écouter l'avis de l'ancien commandant de l'armée suisse, Christophe Kekais, qui est favorable à l'octroi de ces 15 minutes d'Internet par jour aux recrues. Pour le Neuchâtelois, l'armée doit savoir être à l'écoute des générations d'aujourd'hui, sans oublier toutefois ce qu'elle est.
Pour une armée de milice, hein, qui par définition est un échantillon de notre société, il faut absolument arriver à tenir le rythme de notre société. Notre société évolue, les jeunes d'aujourd'hui sont plus du tout ce qu'on était nous à notre époque. Et puis si on veut continuer de motiver les jeunes, de les encourager à participer comme nous on l'a fait dans le temps, il faut trouver des pistes modernes, il faut les écouter, il faut voir ce qui va bien pour eux et puis il faut utiliser ces moyens-là. Je pense que c'est incontournable. Il faut absolument se rendre compte que l'armée, c'est pas un club à part. c'est vraiment un échantillon de notre population. C'est 35 000 jeunes chaque année au point de vue démographique qui entrent en ligne de compte pour ça. Et il faut absolument qu'on soit à l'écoute de nos jeunes et puis que autant que faire se peut, on fasse des gestes dans leur direction. Parce que l'armée, c'est quelque chose quand même d'extrêmement robuste. C'est une organisation qui a une histoire, qui a une mission, qui a une lourdeur. Et puis, il faut qu'on bouge. Et puis là, je pense que c'est un geste extrêmement, extrêmement moderne et bon. Mais il faut fixer des limites.
Au lieu d'appliquer un discours de fermeté, on veut séduire, on veut faire plaisir. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt privilégier un discours de fermeté ? La menace existe ?
Alors, il faut les deux. Il faut être factuellement correct. Hein. Mais il ne faut pas non plus faire trop de place au terrorisme. Malheureusement, le journalisme, les médias et tout ce monde-là fait beaucoup, beaucoup trop de place au terrorisme. Ces gens-là occupent les journaux du matin au soir, on ne parle que de ces gens-là, et puis c'est exactement ce qu'ils veulent. Donc il faut pas que nous tombions dans le même piège. Il faut factuellement dire ce qui est. Il faut parler de la menace terroriste. Il faut clairement dire qu'on fait partie, selon la perception d'un terroriste, on fait partie des méchants, hein, on fait partie du monde occidental. Et le terroriste, il ne fait pas la différence entre un Suisse et un Américain. C'est parce que c'est la neutralité. Donc on est menacé comme tout le reste du monde occidental par ces terroristes, mais il ne faut pas non plus qu'on parle d'eux du matin au soir. Et l'autre mission fondamentale quand même de l'armée, c'est la seule réserve stratégique de notre pays, elle a trois missions de la Constitution, la plus lourde étant la défense du pays et de sa population. Et ça, c'est un langage qui est dur, et qui est dur à encaisser pour un jeune qui n'a jamais été confronté à ça. Donc il faut qu'on lui transmette les deux dimensions. D'un côté, la robustesse et la dureté de la mission, éventuellement, hein, quand on parle de crise, de conflit ou de guerre, la mission ne sera pas la même, mais ce qu'on enseigne à l'armée, c'est tout, y compris la mission pénible, difficile, et si on veut arriver à motiver un jeune sur cette voie-là, sur ce langage nouveau, sur cette attention nouvelle à des aspects sécuritaires auxquels il n'a jamais été confronté avant, il faut qu'on le fasse avec les instruments qu'il a l'habitude d'utiliser. Un jeune, actuellement, il est en train de surfer comme un fou sur les réseaux sociaux. Il va chercher des infos à gauche et à droite là-dessus. Et puis l'armée, elle doit tendre, construire des passerelles, je dirais, pour rester accessible, pour aller chercher ces jeunes là où ils sont, mais leur rappeler la dureté du boulot. Il faut les deux. C'est pas du tout, disons, se laisser aller, c'est pas du tout un nivellement vers le bas, c'est simplement l'utilisation d'un langage moderne, de passerelles modernes qui nous permettent de motiver les jeunes, parce que maintenant ils sont terriblement tentés à la moindre épreuve de quitter l'armée pour aller faire du service civil, ce qui est évidemment une catastrophe, c'est devenu beaucoup trop facile de changer de club et puis d'aller servir là. Il faut absolument qu'on arrête cette hémorragie. Hein. Ces dernières années, on a perdu 5 à 6 000 jeunes soldats par ce biais-là. C'est une base juridique nouvelle qui est utilisée de manière exagérée. Et c'est l'hémorragie pour l'armée. Hein. Si ça continue comme ça, ben, il n'y aura bientôt plus d'armée.
L'armée qui peut entrer en contradiction avec les études supérieures, ce qui décourage pas mal de jeunes qui essayent d'échapper à l'armée. Est-ce que là, l'armée peut faire un geste aussi ?
Oui, l'armée, elle doit le faire. D'ailleurs, elle le fait. À chaque réforme, on a toujours cherché le contact avec, si vous voulez, la conférence des directeurs. Vous savez que chez nous, l'enseignement, suivant les niveaux, c'est distribué au niveau des cantons. Les responsabilités sont cantonales. Et on a toujours cherché, à chaque réforme, par exemple, à trouver un calendrier qui est judicieux, qui permette aux étudiants de faire du service militaire sans être trop pénalisés dans leurs études. On a tourné ça vraiment dans tous les sens. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune date qui va pour tout le monde dans ce pays. Alors, il faut être extrêmement à l'écoute, il faut chercher ensemble le dialogue. Et là aussi, le commandant de corps rebord, le nouveau chef de l'armée, a trouvé des nouvelles pistes. Il propose des interruptions possibles dans les services. Avant, on était extrêmement dur. Les gars devaient faire leurs 4 mois d'un morceau, ou bien un mois, suivant ce que c'était comme école. Et puis maintenant, on leur permettra d'une part, de faire ça en différentes périodes, et puis on leur permet aussi un certain nombre de jours de congés, soit pour aller préparer des séances d'examen, soit pour aller passer des examens, soit pour faire toutes sortes de travaux administratifs. Le système de Bologne étant extrêmement flexible, il faut aussi, du côté de l'armée, trouver beaucoup plus de flexibilité pour que ces jeunes ne soient pas soit pas pénalisé. Il y a de gros efforts à faire, mais le drame, c'est que dans ce pays, il y a 26 solutions et il n'y en a aucune qui va pour tout le monde.
Un dernier mot, Christophe Kekaïs, une mesure ou un aménagement qui vous semble essentiel, qui vous semblerait prioritaire, outre les deux mesures dont on vient de parler, c'est-à-dire un quart d'heure d'Internet et puis une facilitation au niveau des études?
Alors moi, j'espère qu'on trouve encore beaucoup plus de flexibilité dans la manière de servir. Je pense par exemple qu'un hacker, il ne doit pas aller faire 19 jours de service d'un coup. Il peut très bien travailler à la banque comme hacker 3 jours et demi par semaine et puis faire 1 jour et demi par semaine chez nous comme hacker. Dans une période de cyberguerre et de cyberinformation, on a besoin de ces gens-là. C'est des gens qui ont une compétence unique. La même chose, par exemple, pour des gens qui sont handicapés. On peut imaginer un hacker brillant en chaise roulante. Il faut que ce type, même qu'il est en chaise roulante, qu'il soit déclaré apte au service. Donc là, je pense qu'il y a encore beaucoup de flexibilité à aller chercher pour trouver des profils ajustés à certaines personnes dont on a besoin. Et il faut oublier cette idée du soldat robuste qui arrive à porter 38 kilos à la montée jusqu'au sommet du Cervin, etc. Il faut vraiment penser la guerre comme elle sera la prochaine. Elle sera complètement différente de tout ce qu'on a imaginé jusqu'ici. Il faut aller vers ces jeunes, les écouter et puis chercher des pistes qui les motivent à servir dans des périodes qui sont facilement gérables, en dureté et aussi dans le calendrier des études civiles. Il y a encore un chemin à faire, mais je suis certain que le nouveau chef de l'armée va suivre cette piste-là et qu'on va trouver des solutions.
Place publique.
Un tout autre sujet dorénavant dans l'arc jurassien. 4 villages, voire 5 si on compte Erlach, comptent désormais parmi les plus beaux villages de Suisse. Saint-Ursanne, Lanneville, Le Londron et depuis peu Valangin. Un classement qui compte 23 autres sites d'exception répartis dans les 4 coins du pays. Il s'agit en fait d'une association baptisée Les Plus Beaux Villages de Suisse qui depuis 2015 s'attache à promouvoir les lieux abritant un patrimoine remarquable. Un tel label touristique à l'image de ce qui se fait en France et ailleurs, est-ce que c'est une aubaine pour les heureux villages élus ou au contraire, trop de contraintes pour peu de résultats? On va en parler avec nos 3 invités. Aurélie Widmer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère communale à Valangin, en charge du dicastère du tourisme. Albert Picret aussi est avec nous, maire de Clos-du-Doubs. Bonsoir. Vous nous entendez, Albert Picret?
Je vous entends.
Magnifique, nous aussi. Donc, Clos-du-Doubs, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte ailleurs que dans le Jura, c'est la commune qui comprend Saint-Ursanne. Et bientôt avec nous aussi, Alain Saint-Sulpice, qu'on tente de joindre, qui est le correspondant des plus beaux villages de Suisse. On espère l'avoir à nos côtés. Je commence avec vous, Aurélie Widmer. On imagine que beaucoup de villages en Suisse aimeraient faire partie d'un tel classement. Alors, comment ça s'est passé pour Valangin? L'impulsion vient de vous ou bien est-ce qu'on est venu vous chercher?
Non, alors effectivement, c'est l'association des plus beaux villages de Suisse, donc le comité qui est venu à notre rencontre, qui est intéressé par notre commune et qui nous avait savoir qu'il voulait qu'on rejoigne l'association. Donc voilà.
Et qu'est-ce que ça implique pour votre commune? Est-ce que c'est simplement dire oui et c'est fait ou bien est-ce qu'il y avait un cahier des charges que vous deviez encore mettre au point?
Alors effectivement, ça n'a pas été facile, il faut bien l'avouer, au sein des autorités de convaincre finalement que de rejoindre cette association, c'était quelque chose de porteur, quelque chose de fantastique pour notre village. C'est vrai qu'il y a un cahier des charges, entre guillemets, c'est de communiquer, de parler des expériences, des manifestations qui se déroulent dans la commune. Il y avait aussi des contraintes liées finalement au bourg de Valangin, de le valoriser, d'aller dans ce sens-là, mais finalement, c'est quelque chose qui va de soi quand on est dans une commune de ce type.
Alain Saint-Sulpice, merci de nous avoir rejoints. Donc, on le rappelle, hein, vous êtes correspondant pour la Suisse romande, les plus beaux villages de Suisse, cette association qui classe du coup les sites d'exception. Alors, beaucoup de villages possèdent des monuments dignes d'intérêt, des petits trésors. À partir de quand votre association entre en matière ou va chercher le village, puisqu'apparemment l'impulsion venait de vous en ce qui concerne Valangin?
Alors, effectivement, l'association est jeune puisqu'elle a été créée en 2015, mais elle a déjà une longue histoire dans le sens où nous avons constitué une liste de villages potentiels qui pouvaient répondre aux différents critères d'admissibilité de notre charte de qualité. Et dans cette première phase, suite à la création de l'association, eh bien c'est vrai que nous avons commencé à démarcher plusieurs villages que nous avions préalablement inventoriés. et puisque l'association n'était pas encore connue, disons, dans le paysage touristique suisse, eh bien, nous avons rencontré les différents élus locaux et nous regroupons aujourd'hui 27 villages, dont Valangin et Saint-Ursanne, et on en est très fiers.
Et selon quels critères, encore une fois, hein, des villages, il y en a énormément en Suisse, surtout des villages qui abritent ici une église romane, ici des monuments intéressants. Qu'est-ce qui fait qu'une commune fait partie de ce club exclusif ?
Alors, la charte de qualité prévoit toute une série de critères d'ordre quantitatif ou qualitatif. Pour ce qui est du critère quantitatif, il faut que ce soit un village de moins de 2000 habitants, de manière à garantir un caractère rural. Au niveau qualitatif, il faut bien entendu que le village ait un patrimoine classé, est un ensemble architectural homogène, avec une certaine harmonie au niveau des façades, des matériaux, et avoir aussi une certaine prédisposition à l'accueil de visiteurs, c'est-à-dire que le village a l'intention de mettre en valeur son patrimoine, de le partager, de l'ouvrir à ses visiteurs, soit par le biais de visites guidées, de musées ou de panneaux d'information, et aussi être un village bien vivant, avec un tissu économique et social, et des événements culturels toute l'année.
Albert Picret, pour Saint-Ursanne, vous n'avez pas attendu 2015 et cette association, ce classement, pour prendre soin de votre patrimoine, en faire la promotion. La cité médiévale, on le sait, a une réputation qui n'est pas à refaire. Alors, en quoi ce classement ajoute quelque chose ? Quelle retombée vous en attendez ?
Alors, ce classement, pour nous, ce qu'on en attend, c'est une plus grande visibilité de notre région, de Saint-Ursanne même. Donc, lié aussi à tous les travaux qu'on y réalise, donc la réfection totale de la ville. Maintenant, on a le pont Saint-Jean qui a été remis à neuf complètement, avec sa statue Saint-Jean-des-Pommucelles. Et puis, que les gens puissent continuer à venir visiter notre collégiale, qui est vraiment le monument de Saint-Ursanne. Et après, c'est clair que tout au long de l'année, on a ces manifestations qui sont quand même de grande importance, soit les médiévales, soit la cause des Rangiers. On a des estivades, donc des dimanches de juillet, août, où la ville est fermée à la circulation et puis il y a des animations. Alors tout ça, ça nous permet, par la visibilité de plus beaux villages de Suisse, d'encore peut-être étendre notre visibilité.
Donc tout est bon à prendre, hein, c'est ça que vous nous dites.
Alors en quelque sorte, oui, on a eu la chance d'avoir été sélectionné par le comité donc des plus beaux villages de Suisse. Et aujourd'hui, on espère qu'il y aura toujours une continuité et puis qu'on puisse paraître sur des brochures ou autres, donc pour pouvoir continuer de promouvoir Saint-Ursanne.
Donc ça veut dire qu'il y a quand même de votre part des attentes vis-à-vis de cette association pour qu'elle fasse la promotion en bonne et due forme de votre commune et des villages répertoriés.
En quelque sorte, je crois que c'est un petit peu ça le contrat. On a quand même discuté, échangé, on a dit on veut bien entrer dans l'association, mais en autre partie, il faut qu'on ait aussi une plus grande visibilité et puis nous aider à faire cette promotion de notre ville.
Qu'est-ce qui va changer, Aurélie Widmer, à Valangin, maintenant que vous faites partie de ce réseau ? Qu'est-ce que vous rêvez ? De quoi vous rêvez ?
Alors, effectivement, comme ça a été dit, de faire valoir le village, de le valoriser pour le rayonnement sur le plan national, cantonal, national. Et puis c'est vrai qu'on attend aussi peut-être une redynamisation finalement des associations locales, mais aussi des commerces. Peut-être que ce label pourra redynamiser un petit peu la vie locale, effectivement.
Ça va se traduire comment ? Pour les Neuchâtelois et pour les touristes, il y aura un panneau qui désigne Valangin comme étant l'un des plus beaux villages de Suisse ?
Voilà, effectivement. Donc il y a le panneau de l'association que les communes peuvent mettre à l'entrée de leur commune. Donc voilà, ce sera vraiment une affiche visuelle à l'entrée de la commune.
Alain Saint-Sulpice, on le voit, il y a des attentes. Hein, il y a des attentes à l'interne. On espère que ça redynamise un village. Et il y a des attentes aussi au niveau des efforts de promotion que vous pourrez déployer. Est-ce que votre toute jeune association a déjà les reins assez solides pour faire la différence et déjà mettre en avant les villages que vous avez répertoriés ?
Oui, je pense. Nous sommes déjà bien structurés. Nous faisons tout, effectivement, pour mettre en lumière ces villages remarquables.
De quelle manière ? Vous avez un site internet, mais est-ce que vous avez des campagnes de presse, des campagnes d'affichage, par exemple ?
Alors, on a un site internet, une page Facebook suivie par plus de 7000 abonnés. Et puis, tout récemment, la Fédération internationale des plus beaux villages de la Terre a intégré la Suisse, donc notre réseau, comme 8e membre associé. Et ça, ça donne à nos villages une vitrine internationale. Et ça, on en est très fiers. Et donc, on continue, disons, à travailler sur tous ces moyens de promotion.
C'est ça la force, en fait, de votre association, c'est qu'elle s'inscrit dans une tendance qui existe déjà depuis plusieurs années dans d'autres pays. Donc, vous rejoignez un réseau et vous faites un peu la courroie de transmission du patrimoine mondial. Allons jusque-là.
Alors, c'est vrai qu'on joue sur un label de qualité qui est reconnu internationalement. Les plus beaux villages existent déjà en France, en Italie, en Espagne, au Japon, au Québec, et j'en passe. Et c'est vrai que la Suisse n'avait pas encore ce label touristique. Et je pense qu'il arrive à point, puisque nous avons constaté qu'en Suisse, l'offre touristique est principalement concentré sur un tourisme des villes avec le tourisme d'affaires et puis également un tourisme principalement basé sur les stations alpines avec le tourisme des sports d'hiver. Donc on apporte ici un complément dans l'offre touristique que nous avons en Suisse et nous essayons d'amener les visiteurs un petit peu en dehors de leur circuit touristique traditionnel pour leur montrer notre belle campagne et nos villages exceptionnels.
Albert Picré, est-ce que vous avez envie d'avoir votre mot à dire, vous, sur les prochains villages qui feront leur entrée pour ne pas être en trop mauvaise compagnie ?
Alors, c'est peut-être très difficile à dire. Est-ce qu'on doit être un grand nombre ou pas, c'est difficile à dire, mais je pense que si le tourisme est dans une région, ben ouais, si on a quelques villages à suivre ou autre, chaque village a ses spécificités, et puis pour le tourisme ben, qui se balade, qui est dans une région, ben c'est bien de se dire, ben, ce jour-là je vais là, le lendemain je vais là, et ainsi de suite. Et puis il peut faire des comparaisons aussi de ce qu'il voit, puis de ce qui est promu.
Aurélie Widmer, 27 villages pour l'instant. Est-ce que pour vous, ça vous poserait un problème que cette liste s'allonge indéfiniment tant qu'il y a des sites intéressants ?
Non, alors pas du tout. Au contraire, je pense que c'est une bonne manière de mettre en valeur les communes. Après, je crois savoir que l'association s'est limitée à un certain nombre de communes. Peut-être que M. Saint-Sulpice pourra mieux
répondre. On lui posera la question.
Mais non, alors pas de souci du moment que ça met en valeur et puis effectivement que ça porte.
On va terminer avec ça. Alain Saint-Sulpice, ça paraît assez logique. Si tous les villages sont les plus beaux villages de Suisse, finalement, ça perd un peu en force. Quel est le nombre limite, le plafond que vous êtes fixé ?
Alors, je vais rassurer un petit peu tout le monde. Effectivement, l'association a établi un inventaire de tous ces villages qui correspondent aux critères d'admissibilité de la charte de qualité. Et on en a inventorié une cinquantaine sur tout le territoire national. Donc, voilà. L'association, au maximum, disons, pourra s'étendre jusqu'à 50 villages. Mais ce n'est pas le souhait actuel de l'association, puisque nous souhaitons vraiment travailler sur les 27 villages de notre réseau. Et il y a déjà beaucoup à faire.
Et ces villages pourraient perdre leur place si d'aventure le cahier des charges n'était pas tenu ?
Alors, bien entendu, il y a des critères à respecter. Non, bien sûr, il y a une charte de qualité avec des critères qu'il faut maintenir. Et effectivement, les villages sont visités régulièrement par notre comité pour s'assurer que tout est bien en place et que le patrimoine est toujours mis en valeur comme il se doit.
Comme les guides gastronomiques.
Pardon,
comme les guides gastronomiques avec les restaurants.
Sans faire de classification entre les différents villages, puisqu'ils sont tous aussi beaux les uns que les autres à nos yeux.
Dernière question rapidement à Albert Picré et Aurélie Widmer. Quels sont les prochains événements, les prochaines manifestations à ne pas rater dans la région, dans vos communes respectives ?
Alors, pour Claude Hudoux, ben ce sera les médiévales.
Et c'est bientôt.
Prochainement, premier week-end de juillet. Donc, 3 jours de liesse.
Et pour Valangin ?
Alors pour Valangin, on reste dans la même thématique, donc il y aura également les fêtes médiévales, mais cette fois au mois de septembre.
Très bien, comme ça vous complétez. Et Alain Saint-Sulpice, vous serez du côté de Grandson bientôt.
Voilà, demain, effectivement, l'association tiendra un stand à Grandson à l'occasion de la fête d'inauguration de la rue Haute et accessoirement aussi la fête de la musique. Et nous remettrons autour de 18h, lors de la partie officielle, le prix du mérite 2017 à la commune pour tous les efforts entrepris dans la revalorisation du bourg historique.
Merci infiniment à tous les trois d'être venus.
Moi, j'ai une petite correction à faire, c'est le deuxième week-end de juillet, je crois que je vous ai dit premier.
Oui, on ira vérifier, mais c'est bientôt en tout cas. On est prêt. Merci infiniment d'être venus tous les trois de parler de vos villages, de ce prix, de ce classement. On vous souhaite évidemment une bonne soirée, un bon week-end. C'est tout pour Place Publique. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Yannick Frossard et Nadia Chmirou pour la réalisation. À bientôt.
Place Publique.